Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons parlé la dernière fois de l'homme au jardin des origines, l'homme au paradis, en disant que dans l'homme, il y a une nostalgie de ses origines. C'est, le catéchisme dit, c'est nostalgie de ses origines où il ne devait ni souffrir ni mourir. Revenons à ses origines en reprenant une question me revient sur homme et femme en ces origines-là. Dans ces origines, l'homme est l'homme, l'être humain est créé homme et femme. Je me disais qu'au-delà de la question de la complémentarité sexuée, homme et femme, finalement, ce premier couple, c'est aussi la première société, d'une certaine façon.
Oui, c'est tout à fait extraordinaire de voir que d'emblée, Dieu a assigné à Adam une fin, qu'on pourrait appeler la première fin, la plus, je dirais, dans le temps, la plus ressentie, une fin horizontale, on pourrait dire, où il lui a demandé d'être en société avec quelqu'un qui va être l'os de ses os, la chair de sa chair, Ève. Donc il y a une société humaine et qui fera dire par expérience, indépendamment de la Bible, aux philosophes que l'homme est un animal social. C'est extraordinaire, cette fin, nous sommes appelés à vivre en société. Même l'ermite qui part dans sa montagne vit en société, je dirais, par le fait qu'il appartient à l'Église visible et il dépend des autorités ecclésiastiques, il dépend aussi des autorités civiles. Il ne peut pas vivre comme s'il était seul sur son île. Même Robinson Crusoe sur son île est obligé de penser à ceux qui viendront peut-être un jour le secourir. Et cet aspect de société est important pour nous parce que nous devons nous rappeler que nous avons cette fin aussi en nous, cette finalité où nous devons nous intéresser au bien commun. Et une autre fin qui la dépasse, qui est l'union à Dieu. Et parfois, nous sommes un peu tentés dans l'Église de ne penser qu'à la deuxième fin, l'union à Dieu, qui est vraie et plus élevée, plus grande, et du coup de minimiser la première fin qui pourtant est fondamentale parce que nous allons trouver notre union à Dieu souvent dans l'amour du prochain. Et saint Jean est très clair dans le chapitre 4 de la première épître de saint
Jean. Celui qui dit « J'aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère est un menteur ».
Est un menteur, exactement. Donc c'est vraiment par cette société et par l'amour donc, qui va surélever ces rapports sociaux que nous allons découvrir Dieu. « Qui voit la charité, dira saint Augustin avec son trait de génie, voit la Trinité ». Et donc, c'est le trépied, c'est l'escabeau, je dirais, pour aller vers le ciel. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect du bien commun, cet aspect de la société. Et c'est vrai que dans une société très individualiste, on pourrait être tenté de dire, ben, ma foi, je fais mon salut dans mon coin, et puis advienne ce qui peut arriver pour le reste, et se moquer du souci du bien commun. Or, le catholique, le chrétien, s'implique dans le bien commun. Il doit avoir à cœur ses affaires, sans, bien sûr, négliger tous les devoirs afférents à rester propre dans ce monde. Le chrétien n'est pas du monde, il est dans le monde, et c'est peut-être l'héroïcité des vertus d'emblée que d'être dans ce monde politique. Mais nous avons des grandes figures de sainteté qui ont appartenu au monde politique. Presque tous les grands royaumes d'Europe ont eu un saint roi. Saint Louis en France, Saint Henri en Allemagne, Saint Édouard en Angleterre, etc. Et tous ces grandes figures de la politique nous ont montré que c'était possible, dans le fond, d'être au niveau de l'engagement chrétien. Les récents fondateurs de l'Europe ont, pour un bon nombre, leur procès en cours de canonisation. Ce n'est pas négligeable de penser qu'on pourrait peut-être avoir sur les autels des hommes qui ont fait toute leur vie de la politique. Un souci de bien commun. C'est un moyen de se sanctifier.
Quand on parle donc, comme le fait le catéchisme, de l'homme au paradis, cet état de l'homme au paradis. C'est donc, quand on dit qu'il y a ce paradis perdu pour lequel l'homme a besoin de retrouver le chemin, ce paradis, c'est la communion perdue, d'une certaine façon, qui est posée là. Ce qui, les origines nous montrent notre fin, qui vient celle de la communion. Alors, comme tu le disais, la communion entre nous tous et avec Dieu. Mais du coup, je me dis, sur des questions plus précises, par exemple, l'écuménisme, qui est retrouver l'unité. En fait, derrière l'unité des chrétiens, c'est bien la communion de l'humanité que Dieu cherche.
Oui, oui, et le début de Lumen Gentium est très net. Il rappelle que l'Église a été fondée pour l'unité du genre humain. Et c'est quelque chose qui est un moyen de salut qui doit rassembler tous les hommes. C'est vraiment le dessein d'amour bienveillant de Dieu. Donc cette unité est vraiment dans le désir de Dieu. Et de l'unité divine procède l'union des hommes. C'est pas nous qui, par un coup d'à-coude, une sorte de forcing que l'on ferait pour être en union, que nous arriverions à le faire. C'est l'unité divine qui nous investit et qui fait que nous nous retrouvons dans cette unité divine. Et donc c'est parce que je me rapproche du centre de Dieu que les rayons tout à coup se rapprochent et que dans le fond le cercle se rend un avec le centre. Et c'est cela qu'il faut demander. Une autre difficulté peut-être que note le catéchisme, c'est que celui-ci note que l'homme est un de corps et d'âme. Or, nous ressentons une division qui est comme conséquente du péché originel, de la chute de l'homme que nous verrons prochainement, et qui fait que cette unité n'est pas sentie d'une manière immédiate. Il y a dans le livre de la Sagesse ce passage important qui dit que l'homme ressent entre son âme et son corps une opposition et comme une pesanteur. Je vous lis en Sagesse 9, à partir du verset 15, que l'homme a un corps corruptible. En effet, ce corps corruptible appesantit l'âme, dit l'Écriture, et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. Nous avons peine à conjecturer ce qui est sur cette terre, et ce qui est à notre portée, nous ne le trouvons qu'avec effort. Et donc, cette pénibilité, si vous voulez, fait que cette union, déjà en nous-mêmes, est difficile à vivre. Alors, combien plus l'union en société, et combien plus à celui qui nous transcende totalement, qui est l'union avec Dieu. Et donc, cet appel du psaume « Unifie mon cœur pour qu'il te craigne » est peut-être la première des demandes à faire. Et nous pouvons le conseiller quand nous rencontrons quelqu'un. Eh bien, avant de se lancer dans des affaires publiques, avant de se lancer dans une vie mystique, je dirais extraordinaire, première chose, unifie ton cœur pour qu'il craigne
ton nom.
Voilà, il craigne ton nom, le nom du Seigneur. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc de se laisser convertir, dans le fond. Donc la première étape du christianisme a toujours été, en matière d'union, la conversion. Et par rapport à ces deux fins, eh bien, il y a comme une conversion de base qui est absolument nécessaire.
Oui, il est vraiment important de rappeler ces deux dimensions de la société ou de la communion aux origines horizontales des hommes entre eux, à commencer par ce premier couple humain, et avec Dieu. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous-mêmes qui sommes religieux et n'en sommes pas exempts, n'avons pas déjà réussi le programme, si je puis dire, mais pour tout chrétien, c'est cette unification de la personne, trouver cette unité, ne pas séparer, comme tu le disais tout à l'heure, ne pas mettre tellement en avant l'union à Dieu qu'on en oublierait l'union des hommes. Bon, à l'inverse, il y en a qui vont aussi penser d'une façon, enfin, qui, qui, qui est un peu, j'ai appelé ça sécularisé, en tout cas, de vivre tout à un niveau qui est tellement purement social que ça se délite aussi, parce que c'est Dieu qui fait tout tenir.
Et c'est Dieu qui fait tout tenir. De fait, ça a été une tentation. Le socialisme, le communisme, les textes du Saint-Siège au moment de l'apparition de ces courants politiques ont été très clairs. Il y avait un danger de ramener l'homme à une seule fin, la fin sociale. Et l'État devenait comme une idolâtrie. Hein, on voit bien les textes de Pie XI par rapport aux grandes idéologies, que ce soit en Italie avec le fascisme, que ce soit le nazisme en Allemagne, que ce soit les mouvements mexicains d'autonomie ou le communisme en Russie. À chaque fois, c'était l'État qui prenait toute la place. Et donc, l'homme était réduit à cette dimension sociale. Or, il ne faut jamais réduire l'homme à sa dimension sociale. Il est plus. Il est aussi tourné vers Dieu, comme dit saint Augustin, « capax Dei ».
Oui. Et on en a trouvé, l'intention est bonne, l'intention est belle, pourrait-on dire. Mais effectivement, après, on en arrive à cette manière de parler. Je ne sais pas si je crois en Dieu, mais je crois en l'homme. Oui, je suis humaniste dans un sens tellement, tellement réduit.
Oui, tellement réduit. De fait, des courants chrétiens ont pu être fascinés par ce souci de l'homme, où l'homme prend toute la place. Mais à la limite, alors on ne parle plus de Dieu et on devient à ce moment-là, je dirais, on s'ampute de la dimension la plus élevée de notre esprit.